Aujourd'hui, c'est la soirée inaugurale de la 11e édition de ce que nous appelons le printemps des sciences humaines et sociales. Et cette édition est en fait une nouvelle édition qui est rajeunie, qui est retravaillée. Et vous avez donc le programme qui est... Nous avons une double programmation cette année pour la première fois. Une programmation thématique autour du rapport entre fiction et science, et c'est ce pourquoi nous sommes là ce soir. Du pouvoir de la fiction et de sa capacité à nous aider à nous projeter et à investir des avenirs possibles. Et puis, il y a une autre programmation qui met en avant en fait les projets de nos chercheurs en sciences humaines et sociales que nous soutenons à la Maison européenne des sciences de l'homme et de la société. Et ce sont des rencontres pour renforcer justement ce lien entre sciences et société. Et donc, vous verrez, il y a des choses un petit peu inhabituelles, des ateliers de cuisine, de dégustation. On ne fait pas la cuisine, on mange. On fait la cuisine aussi, comme pendant la Première Guerre mondiale. C'est inhabituel. Il y a aussi des ateliers d'écriture, ça c'est plus classique. Des conférences dégustation et des visites guidées. Donc, je vous encourage à emporter notre petit dépliant et à l'étudier. Et comme toujours, c'est une programmation qui est gratuite et qui est ouverte à tout le monde. Donc si vous avez des amis, des connaissances pour lesquelles vous pensez que ça peut les intéresser, n'hésitez pas à prendre un deuxième programme et à le diffuser. Et donc là, je cède la parole à ma collègue Anne Besson, qui va piloter, coordonner cette table ronde.
Non, c'est Emmanuel
Bien, donc on va pouvoir commencer en effet cette table ronde. On va peut-être commencer par une présentation rapide. Je vais simplement nommer mes collègues qui vont eux-mêmes d'emblée peut-être présenter le lien qu'ils entretiennent avec la science-fiction, personnellement et professionnellement. On va peut-être commencer par là. Donc, Irène Anglet, qui est professeure à Paris-Est Marne-la-Vallée, simplement située. Ensuite, Simon Dréan, donc, qui est lui-même maître de conférence à la Sorbonne, et Anne Besson, qui est professeure à l'Université de l'Artois, chacun ayant déjà effectivement des liens professionnels marqués avec la science-fiction. Je vous laisse vous présenter en lien avec cette thématique.
Oui, bah écoutez, je veux bien commencer là-dessus. J'ai écrit un livre sur la science-fiction en 2006, qui s'intitule « La science-fiction ». Le sous-titre est important, « Lecture et poétique d'un genre littéraire ». Mon projet, c'était d'insister justement sur la forme de la science-fiction. On parle beaucoup de la science-fiction, mais finalement, étudier son style, étudier ses mots, comme on le ferait d'un poème de Dubelet ou d'une belle page de Hugo, on le fait moins souvent. Et c'est ça qui m'animait. Je suis une lectrice de science-fiction depuis longtemps, depuis ma classe de 5e. Et c'était « Il viendra des pluies douces » de Ray Bradbury dans les Chroniques martiennes. Ça m'a accrochée pour longtemps. Je préciserai juste une chose aussi, c'est que la science-fiction, ça fait partie de mon métier dans ma deuxième partie de carrière. Je fais partie de ces universitaires qui n'ont pas osé tout de suite se consacrer à la science-fiction et oser le défendre devant l'institution. Mais désormais, ça se passe.
Non. Simon Dréan fait partie de ces générations qui ont assumé.
Saisir cette perche. Pour ma part, j'ai. Mon lien personnel à la science-fiction est très ancien, sans être forcément d'ailleurs très profond et divers. Je suis simplement un lecteur passionné, sans avoir eu l'intention d'en parler ou de discourir sur la science-fiction au départ. Et c'est par une convergence un peu, au départ un peu surprenante, entre des intérêts pour la mythologie auxquels je pensais, dans un premier temps, consacrer mes études dans une perspective de l'aide classique. Et en fait une compréhension du fait que cet intérêt pour la mythologie s'accrochait de façon importante avec ce que je n'appellerais pas la mythologie de notre contemporain, qui serait la science-fiction, parce que ça ne fonctionne pas exactement comme une mythologie. que j'ai entrepris un petit peu en tâtonnant un travail qui finalement a abouti effectivement à une thèse sur la science-fiction française, hein, donc une histoire de la science-fiction en France, et aussi une poétique, hein, effectivement, dans le prolongement des travaux de l'anglais, de Richard Saint-Gelais, qui a posé des bases importantes en termes de poétique à la fin des années, enfin, en gros autour des années 2000, et du coup j'ai pu progressivement poser cette question de la science-fiction française au sein de l'université, notamment l'entreprise que nous avons lancée, enfin l'entreprise universitaire, nous avons lancé, qui est la revue en ligne Res Futurae, RESF, qui pose la question de la recherche universitaire en science-fiction. On aura l'occasion.
Donc autant Irène et Simon sont vraiment, aujourd'hui en tout cas, des spécialistes de science-fiction, moi je suis un petit peu à côté, je suis plus identifiée comme spécialiste de fantasy, donc qui est l'autre grand genre de l'imaginaire, enfin, un des trois avec le fantastique, et la science-fiction est peut-être le genre qui m'occupe le moins par rapport à la fantasy. Je suis une lectrice boulimique, mais donc d'à peu près n'importe quoi et pas spécialement de fantasy, ni de science-fiction, arrivé assez tard dans mon parcours, quand, après avoir dévoré toute la littérature réaliste, le naturalisme, etc., qui était ma première passion de collégienne, j'ai trouvé dans les rayons de la bibliothèque municipale des couvertures tout aussi prometteuses en termes de volume total à absorber, et c'était pour le coup les grands cycles de science-fiction. C'est vraiment par volonté d'avoir assez à lire que je suis allée vers ces domaines-là, et je ne suis pas déçue, je dois dire. Et donc c'est aussi ça qui a motivé de faire ma thèse sur ces sujets-là, donc une thèse sur les cycles en littérature populaire, donc à la fois et en littérature de genre, et qui portait à la fois sur la science-fiction, la fantasy, le roman policier, donc sur les romans à suivre et sur les constructions de mondes alternatifs. Donc mes questions sont transversales à différents genres. Je ne m'identifie pas complètement comme une spécialiste de science-fiction. En revanche, c'est moi qui suis à l'origine du MOOC science-fiction, qui est venu comme un prolongement de celui qu'on avait fait sur la fantasy avec Emmanuel Poulain-Bottret notamment, parce qu'on avait envie de renouveler cette expérience qui avait été une réussite, qui est un grand plaisir, et que c'était l'évidence de compléter le diptyque. Et puis c'était quelque chose qui nous était demandé par les apprenants du MOOC fantasy, d'avoir un MOOC SF. Donc voilà comment on s'est retrouvés et que j'ai embarqué mes camarades dans cette histoire-là.
Voilà, moi je fais une petite parenthèse. Qu'est-ce que je fais là, moi, en enseignante de livres? Je suis médiéviste. Alors, bon, du coup, on voit mieux le lien. Les médiévistes ont des connexions, évidemment, avec les gens qui travaillent la fantasy. Nous lisons de la fantasy, bien sûr, au Moyen-Âge. Une partie importante de la fantaisie. Il se trouve que personnellement, par ailleurs, j'ai toujours préféré, il faut l'avouer, la science-fiction à la fantaisie. Et en vieillissant, je relis. Enfin, c'est quelque chose que j'ai également découvert quand j'avais 12 ou 13 ans, qui continue de le faire. Donc, effectivement, c'est moi qui. Je me suis portée volontaire pour animer cette table ronde. Alors, on va effectivement essayer de faire le tour. En fonction des questions qui étaient annoncées, de la thématique qui était annoncée ce printemps, l'IDSHS. Donc, première question, justement, ce qui était annoncé, finalement, enseigner, peut-on, doit-on, comment peut-on enseigner, ça va être le fil directeur un petit peu, hein, la science-fiction à l'université. Alors, première question, où peut-on, dans quel cadre peut-on enseigner la science-fiction à l'université, et notamment, évidemment, dans l'IDSHS? Pour quels étudiants, comment est-ce qu'on peut faire ça?
Alors, on est tous les trois des littéraires. Déjà, c'est une vraie restriction par rapport au possible, mais c'est aussi quelque chose qui exprime, qui est un symptôme, hein, de ce qu'on peut faire pour la science-fiction. Je ne sais pas si on a beaucoup de collègues d'autres disciplines, vous les identifiez plus que moi, qui travailleraient sur ce genre.
Moi, je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui peuvent faire des cours de science-fiction ou des cours sur la science-fiction. Il n'y en a pas beaucoup qui franchissent le pas.
Oui.
Et c'est dans les études littéraires et cinématographiques que j'ai l'impression que c'est le plus, je dirais, pertinent, naturel. Que ça paraît le plus naturel ces temps-ci. Ce qui ne va pas de soi, d'ailleurs. Mais je connais peu... je ne connais pas. De formation littéraire ou cinématographique à l'heure actuelle dans la carte des formations en France où il y aurait un cours intitulé le cinéma de science-fiction ou la littérature de science-fiction. En ce qui me concerne, j'en ai fait de temps en temps quand j'étais à l'université de Limoges ou quand j'étais à l'université de Rennes. Là, je viens d'arriver à Marne-la-Vallée et ça vous dira un peu de quelle façon peut-être ça se passe. Je commence pas, on n'y va pas si. Hein, on va d'abord faire des cours sur les littératures de l'imaginaire, et puis si ça prend, si ça attire les étudiants, on verra. Moi je le sens comme ça.
Pas de connexion avec par exemple des gens qui travaillent en études cinématographiques ou dans les universités de langue éventuellement.
Alors il y a. On sait notamment qu'à Toulouse, par exemple, il y a un séminaire qui est interdisciplinaire en littérature qui s'est fait effectivement en littérature comparée. C'est-à-dire qu'avec cette approche, donc c'est Iviel et Jean Nuis qui l'animent, qui sont eux-mêmes pas en littérature française ou d'ailleurs anglophone, mais qui du coup prennent appui sur la logique de l'ouverture de la littérature comparée, des cultures et langues européennes au sens large, pour, faire entrer la possibilité de traiter, par exemple, la question des récits courts et donc les nouvelles de science-fiction dans différents pays. Et donc, d'une certaine façon, il y a une sorte de négociation qui se fait ici entre deux contraintes, c'est-à-dire poser une réflexion sur quelque chose qui va être le récit court, penser le récit court, dans la littérature européenne, et le fait que la science-fiction étant un genre dans lequel le récit court donne d'excellents résultats et que c'est la base initialement du récit de science-fiction, c'est la short story justement, eh bien, ils ont pu faire ce type de choses. Ceci étant, effectivement, comme le disait Irène Langlais, la logique du récit au départ de science-fiction va tirer plus vers l'audiovisuel, le cinéma et la littérature. Mais en réalité, dans le cadre de l'université, on se trouve en concurrence avec des logiques qui vont être des logiques souvent de patrimoine littéraire, la science-fiction étant un outsider, comme la fantasy d'ailleurs. Pour la fantasy, je fais un à côté, effectivement, les questions qui sont les questions du Moyen-Âge, on peut rapatrier, réinjecter des considérations contemporaines. Pour la science-fiction, c'est plus difficile. Parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur une donnée qui serait une donnée justement d'un rapport avec un certain état de la littérature. C'est un état de la littérature en soi. Et en un sens, dans une offre universitaire qui, malgré tout, est restreinte, il y a de toute façon des contraintes de place, eh bien, les choix, les arbitrages vont pas forcément se faire dans le sens de la science-fiction au départ. Et effectivement, ça va être à l'intérieur d'un programme plus particulier. Je sais qu'un des enseignements de science-fiction que j'ai pu faire, sachant que je peux assez peu commander être à l'origine d'enseignement de science-fiction, d'enseignement à la Sorbonne. Parce qu'il y a une hiérarchie très. Puis je suis maître de conférence, entouré de professeurs ici. J'ai eu la chance justement de faire un enseignement sur la science-fiction dans le cadre d'enseignement d'humanité numérique avec un enseignant qui est Glenn Rowe qui travaille sur les humanités numériques. Et la science-fiction devient le moyen d'interroger notre rapport à la technologie. Donc c'est moins la question d'étudier la science-fiction que voir ce que la science-fiction nous dit du monde. Donc il y a toujours cet entre-deux, l'examen de la science-fiction pour elle-même et un peu l'étape d'après.
C'est effectivement ce type d'approche qu'on va trouver chez nos collègues. On en identifie un bon nombre qui sont de disciplines très diverses, dont la passion est la science-fiction, Par exemple, sous l'équipe de Nice, hein, où on va avoir un juriste, Hugo Bellagamba, qui est par ailleurs auteur de science-fiction, un physicien, Éric Pichol, spécialiste des lasers, et par ailleurs grand amateur de science-fiction.
Un politiste.
Yannick Rumpala.
Vous pourrez d'ailleurs entendre, je crois, dans deux, trois jours, il va venir vous parler de écologie et science-fiction le 21 mars.
Yannick Rumpala, oui, qui vient de sortir un livre qui s'appelle
Hors des décombres du monde, aux éditions La Découverte.
Et sur donc, cette question des sciences politiques et de la science-fiction. Donc plusieurs anglicistes, Hélène Machinal à Brest, par exemple. Mais, donc sauf cette dernière qui, en littérature contemporaine anglaise, va pouvoir parler d'œuvres de science-fiction, à ma connaissance, les autres ne parlent pas, ne font carrière d'un côté, et la science-fiction reste leur champ de loisirs, de plaisir. Ils apportent une vraie expertise, c'est-à-dire qu'ils font un travail avec des éditions constamment, mais ça n'entre pas en écho avec leurs enseignements.
Hugo Bellagamba a essayé d'aller dans le sens de la question de l'utopie, de ce que justement l'interrogation de l'utopie comme texte littéraire pouvait apporter à la connaissance du droit, mais il y a toujours effectivement cette impression qu'il faut trouver un pied.
Et le grand représentant de ça, c'est Roland Lehoucq, qui a pu être avec nous ce soir, puisque c'est un de nos cinq mousquetaires, avec Natacha Masder également. Et Roland Lehoucq, lui, donc, qui est physicien dans un cadre où il n'est pas enseignant, il est au CEA, de Saclay, donc le commissariat à l'énergie atomique, mais sa grande spécialité, c'est la vulgarisation des sciences par le biais de la science-fiction. Et donc, lui, c'est vraiment un animateur de conférences chevronnées qui porte cette parole du fait que la science-fiction apprend, nous apprend à faire des sciences, hein, et donc constitue vraiment une porte d'entrée vers la culture scientifique extrêmement pertinente et féconde. Voilà, lui c'est un de ceux qui, mais c'est parce que c'est un scientifique, côté sciences dures.
Et on peut ajouter à cette, parce qu'il y a toujours une logique où la science-fiction est un point d'accès vers quelque chose, la philosophie. Il y a un ensemble d'éléments, voilà, en termes de philosophie qui se servent de paradoxes logiques empruntés de la science-fiction, soit reconstitués, soit qui permettent de... Vous aviez en parlé peut-être.
Oui, c'était très...
Alors du coup, si vous deviez en gros compter vos troupes, finalement, est-ce qu'on a l'impression qu'un étudiant qui voudrait travailler sur de la science-fiction, par exemple faire un master, etc., pourrait trouver aisément un enseignant qui voudrait l'encadrer? Est-ce que si on compte les troupes un peu de l'université française, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un à peu près partout, ou est-ce qu'il faut aller à Paris ou un petit peu à Arras?
Non, c'est pas Paris. En tout cas, ça va pas être Paris, mais la réponse va plutôt être non. Écoutez, pour le premier numéro de la revue Restructurae, on a fait ce comptage au niveau des thèses, mais... Ce serait à peu près la même chose pour les masters. Pour encadrer un mémoire de recherche, il faut un spécialiste. La plupart du temps, un étudiant qui veut faire un mémoire avec un sujet sur la science-fiction, c'est pas si évident que ça de trouver un professeur qui est spécialiste. Mais les spécialistes n'ont pas forcément tous se trouvé à Paris. Jusqu'à l'année dernière, moi j'étais à Limoges, par exemple. Anne Besson est à Arras. Bon, alors certes, Simon ressent un peu tout cela, mais c'est plutôt éclaté sur le territoire.
Le montage que tu avais fait, c'est quoi là?
Bah, c'était que c'était très dispersé. Et au moment où je l'avais fait, écoute, pour l'instant, des personnes qui sont habilitées à diriger des recherches. En France, on est très, la profession est très hiérarchisée, hein, très institutionnelle. Donc pour diriger une thèse avec une spécialité en science-fiction, ben, ma foi, il y a Anne Besson et Drayan, que je sache. Sur la spécialité science-fiction, je parle sous votre contrôle, mais...
Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des thèses qui soient inscrites.
Mais il y a des thèses inscrites avec des directeurs qui ne sont pas spécialistes.
Bien sûr.
Disons, si on peut prendre la question dans deux sens, c'est-à-dire qu'en fait, il y a effectivement la question de où trouver un spécialiste pour inscrire un sujet. Si on en reste au niveau du master, effectivement, un instant, renversant un tout petit peu la partie de la question, parce que c'était aussi ce qui était contenu, je crois qu'il est beaucoup moins difficile, dans un temps sans mémoire, mais qu'il n'est pas du tout impossible d'obtenir, y compris d'enseignants qui n'en sont pas particulièrement spécialistes, la possibilité de faire un master en littérature qui va porter sur un sujet de science-fiction. Le fait est que l'encadrement sera plus ou moins efficace. Les gens ne sont pas forcément des spécialistes déclarés et peuvent quand même accompagner sur un sujet donné, hein, bien sûr, ça nous arrive sur tous les sujets de ce point de vue-là, mais en termes d'acceptabilité du sujet, j'ai l'impression à mener que la science-fiction n'est pas forcément anathème. Il y a eu une époque où c'était... Non, mais il y a eu une époque où c'était inconcevable. Disons, je dirais grossièrement, depuis une vingtaine d'années, clairement, l'idée de pouvoir travailler sur ces sujets-là et rentrer dans les mœurs, en même temps que sur toute une série de sujets, disons, moins légitimes, littérature de jeunesse, littérature, évidemment, de fantasy, mais tout ça, hein, alors un peu ensemble, hein, science-fiction, fantasy, jeunesse, polar, ou bande dessinée, effectivement, il y a un effet tout de même. Bon, mais ce décloisonnement qui intervient au niveau du master, qui finalement reste un moment où on fait un peu ses gammes, effectivement, il ne correspond pas, et là je rejoins Irène, il ne correspond pas véritablement à une floraison de travaux au niveau des thèses.
Non mais en fait, si je peux rebondir un tout petit peu, répondre à cette question-là, quand on nous trouve, combien sommes-nous ? Eh bien, c'est précisément parce qu'il est presque impossible d'y répondre que c'est ça la vraie réponse. Il y a des gens qui connaissent la science-fiction dans toutes les disciplines, en droit, en sciences politiques, en médecine même. C'était l'un des enseignements de ce comptage qu'on a fait il y a à peu près 10 ans. Il y a eu une vogue de doctorat, de thèse d'exercice en médecine dans les années 80. Des gens qui se servaient de la science-fiction pour tester des protocoles, des approches de la médecine, des approches de la spéculation aussi. Et puis c'est un petit peu passé. Mais tout ça pour dire qu'il y en a dans toutes les disciplines. Par contre, se compter, comme on se compterait à la Société des Balzaciens, à la Société d'études romantiques ou des 18e-istes, ça c'est beaucoup plus difficile.
Donc, il n'y a pas de société.
Il y a des associations, les sociétés savantes, le CERLI, dont je suis vice-présidente, le Centre d'études et de recherche en littérature de l'imaginaire, il y a l'association Stella Incognita. Et
qui
puis,
est plus tournée vers la science-fiction en soi d'ailleurs, pas plus.
Oui, le CERLI, oui, le CERLI c'est littérature de l'imaginaire. Et puis. Dans une exigence scientifique plus haute, il y a les contributeurs et le comité scientifique de la revue Res Futurae. C'est vrai que, alors moi je pense qu'il y a des étudiants qui veulent faire des thèses en science-fiction, en fantasy, etc. Il y en a beaucoup qui se tournent vers moi chaque année. Mais ça recoupe alors là un ensemble d'autres problèmes qui est, moi effectivement, faisant le même constat que Simon d'un élargissement progressif de l'université, d'une ouverture progressive de l'université à ce type de sujet, et puis une perméabilité aux questions sociétales qui faisait que j'envisageais l'avenir de l'université comme effectivement de plus en plus amené à prendre en compte ces domaines-là. C'est-à-dire, je disais, les étudiants aiment ça, veulent ça, depuis la génération Harry Potter qui vieillit de plus en plus n'a connu que ça dans sa vie, donc ça va faire des masses de gens dont la culture est celle des littératures de l'imaginaire, et il faut que l'enseignement va s'adapter. Bon, il se trouve que par ailleurs, on fait face à des restrictions budgétaires que nous connaissons tous, mais qui touchent en particulier le monde universitaire, qui fait que, voilà, moi je pensais qu'il y aurait des postes en littérature populaire et médiatique, et que du coup, il y a une espèce de cercle vertueux allait se mettre en place, entraînant une multiplication du nombre de chercheurs et donc une élévation, etc. qui n'a pas eu lieu, faute de la création de ces postes en question, qui sont de moins en moins nombreux, et du coup, ceux qui restent vont plutôt par effet de frilosité, enfin de défense du périmètre absolument naturel, à des profils d'excellence qui incluent des critères d'objets sur lesquels on travaille. C'est-à-dire que voilà, quand on a choisi de travailler sur les cultures populaires et médiatiques, on aura une case de cocher, voilà, une case un peu moins excellente. Et donc, dans les derniers moments des recrutements, ça peut jouer contre des candidats. Et voilà, c'est malheureux, mais cette évolution que j'anticipais encore il y a quelques années, l'optimisme qui me caractérise, n'a pour l'instant pas vraiment eu lieu. Et donc, les étudiants qui viennent me voir, je les préviens et je les considère avec avec prudence. Et j'essaye de vraiment tester leur capacité à aller au bout de ce travail et leur conscience de la réalité des choses. Et voilà, je pense qu'on est tous prudent et qu'on ne prend pas trop d'étudiants sur ces sujets-là parce qu'on sait qu'il n'y a pas de place pour eux dans le monde universitaire pour l'instant. Il y a des places pour eux ailleurs, hein, dans, je pense, voilà.
C'est aussi ce qu'il faut identifier, et ça c'est un problème, c'est par ailleurs un problème enfin, ça a été, je sais plus ce problème actuellement, mais ça a été ce problème aussi en termes de dialogue avec des amateurs de science-fiction. C'est-à-dire qu'il y a aussi une logique pour la science-fiction, et je crois que ça marche aussi un peu comme ça pour la fantasy, mais c'est surtout expérimenté pour la SF, une logique qui est une logique un peu insulaire, qui est que quand on évolue dans la science-fiction, qu'on en lit, qu'on pratique ces amateurs, eh bien, on a un peu le sentiment que c'est un monde en soi. Et donc, d'une certaine façon, il faudrait pour que une personne fasse une thèse et ensuite... et une chaire en science-fiction, ben, en gros, que ce soit un sujet en soi, et comme si ça pouvait se suffire. Or, la logique de nos métiers, je le dis, mes collègues, mais la logique de nos métiers, c'est quand même une logique où il faut, tout simplement, on est amené à intervenir sur des sujets beaucoup plus larges que nos sujets de spécialité en termes de recherche. Et le problème qui peut se poser pour des profils qui s'intéressent à la science-fiction, c'est le danger de l'hyperspécialisation. Et donc le danger de poser au départ son intérêt pour la science-fiction comme premier avant un intérêt pour la littérature, avant un intérêt pour le cinéma, avec du coup un risque effectivement de créer un profil qui soit un profil un peu déséquilibré aux yeux des gens qui ensuite vous recrutent lors d'une élection à l'université. Voilà,
Alors, petite question avant de penser à quelque chose de plus vaste. Est-ce que, à l'inverse, les étudiants lisent de la science-fiction? Est-ce que la science-fiction est à la mode chez les étudiants? La fantasy, oui, ça on l'a constaté sans problème. Quand on voit très souvent des étudiants venir demander des sujets de master, effectivement, qui sont très fantasy. Il y a eu un moment où j'ai entendu dire Harry Potter sort de ce corps. Est-ce qu'inversement, on a l'impression qu'il y a un intérêt conservé pour la science-fiction dans la littérature, peut-être. On va aborder après la question de la littérature spécifiquement. Mais est-ce qu'ils lisent de la littérature?
Alors moi, qui travaille sur la littérature jeunesse et young adulte, la réponse est oui. Mais dans adultes, enfin qui seraient donc non étiquetés, mais dans le domaine jeunesse et young adulte, la vague de la dystopie est encore toute récente et encore très active, hein, portée au départ par les Hunger Games, toutes les divergentes, les labyrinthes, voilà, qui ont eu, pour ne citer que des exemples, qui ont eu des adaptations cinématographiques, U4 en France, donc un type d'anticipation bien particulier qu'est la dystopie, et puis le thème de l'écologie. Aussi des ouvrages éco-critiques, y en a aussi beaucoup, et donc ça c'est toujours des lectures que font, alors pas forcément les étudiants, plutôt les lycéens, mais donc qui constituent la culture avec lequel, enfin le bagage avec lequel arrivent les étudiants pour ce qui est des lectures. Et puis si on élargit Irène au cinéma, à la BD, il y a beaucoup de choses.
Ah oui, le cinéma, la BD, la littérature de jeunesse, oui. Moi ce que je constate, c'est que les étudiants de littérature, les étudiants qui s'inscrivent en licence de lettres et puis qui poursuivent en master de lettres, ben non, non, clairement, la science-fiction, ils n'en lisent pas. Ils savent tous ce que c'est. Mais à travers d'autres médias, à travers d'autres supports, et j'ai envie de dire, du coup, à travers une autre pratique, hein, c'est une autre culture. Ce qui est très remarquable, par contre, c'est que quand il y a des étudiants qui lisent de la science-fiction, ce n'est pas des littéraires. C'est des scientifiques, c'est des ingénieurs, c'est des informaticiens, c'est des juristes éventuellement. Et du coup, c'est un défi didactique constant. Moi que j'aime beaucoup, que je trouve très motivant, mais quelquefois c'est lourd à porter parce que d'une certaine manière, ceux qui, avec qui il y a moyen de parler de la littérature de science-fiction, ben, c'est pas avec les outils et la culture littéraire. Y a la théorie littéraire, c'est costaud, c'est tout un bagage scientifique un peu qu'il faut s'approprier. C'est pas avec celui-là qu'on parle des grands classiques de d'Heinlein, d'Asimov, de Cordwainer Smith, de Frank Herbert. En revanche, avec ceux qui ont le bagage théorique littéraire, hein, la culture universitaire des études littéraires, non, ceux-là, ils n'ont pas la culture de la littérature de science-fiction, et d'une certaine manière, c'est comme deux... Ça se superpose sans vraiment se croiser. Moi, c'est une expérience assez constante.
Il me semblait aussi, hein, quand on essaye d'évoquer de la science-fiction avec nos purs littéraires, entre guillemets, les grands classiques...
Non, ils n'ont pas.
Non, c'est pas suffisamment...
Oui, j'ai un petit peu la même expérience. Je manque un peu de recul pour faire beaucoup de généralités sur cette question. Mais effectivement, les situations dans lesquelles auxquelles je me trouve le plus souvent confronté lorsque des étudiants viennent me présenter un projet de recherche en master, c'est effectivement des gens qui ont un intérêt pour la science-fiction parce qu'ils ont lu tel ou tel auteur. Ils n'ont pas d'ailleurs forcément envie de travailler sur cet auteur qu'ils ont lu. Ils ont lu relativement peu, mais ils ont une idée générale de ce que ça peut représenter et ils ont envie. C'est presque aussi en venant me demander des conseils de lecture qui viennent. Alors, pas aussi systématiquement et pas aussi évidemment, mais il y a cette envie de aussi. Et donc, je suis souvent amené à leur proposer finalement des lectures en leur disant d'aller consolider leur projet à partir de cette exploration du corpus. Et du coup, c'est en quelque sorte avec le travail de master qu'ils en lisent. Mais c'est aussi un peu parce qu'ils veulent en lire, qu'ils viennent faire le travail. D'ailleurs, en un sens, c'est souvent lorsque les gens sont vraiment ancrés sur un auteur, ils veulent absolument travailler sur cet auteur-là, que le résultat est plus compliqué parce qu'il faut les faire sortir de l'image qu'ils se font de cet auteur-là. Ils n'ont pas forcément de culture de la science-fiction en général. Et là, à cet égard-là, on a un problème qui se pose, enfin un défi là encore qui se pose, au-delà du fonctionnement textuel de la science-fiction, c'est le problème de la mise en réseau de sa culture, ce qu'on appelle couramment le méga-texte de la science-fiction, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un ensemble de références qui vont pouvoir permettre d'interpréter les textes, cet ensemble de références, si elles sont manquantes, c'est assez difficile de fournir cette culture en cours de master, sur une master relativement courte, et sachant qu'en plus de cela, c'est une compétence, c'est quelque chose qui s'acquiert, non pas en termes de compétences, mais en termes de fréquentation des textes. Donc il est très difficile de faire entrer cette question-là dans un parcours de master sur une année déjà bien remplie.
Alors, témoignage direct en licence, en ce moment je fais Les robots d'Asimov, donc ils ont vu souvent le film iRobot, et alors par contre ce matin, donc j'élargissais les robots, Fondation, qui a lu Fondation, 1 sur la classe, bon, soit 1 sur 40, si mal, mais... ouais, et alors moi je fais régulièrement, je leur demande ce qu'ils ont lu, et alors un nom qui revient tout le temps, c'est Bernard Werber. Ça va être le nom qui ressort le plus, et alors que d'autant qui auquel j'ai réussi à penser aujourd'hui alors que je n'y pense jamais. J'ai fait il y a 15 jours une conférence à des étudiants de Polytechnique, et donc je leur dis justement, je leur disais, qu'est-ce que vous avez lu? Alors il y en avait quelques-uns qui avaient lu Damasio. Très bien, Damasio. Voilà, Damasio, Bordage, donc des auteurs français. Et puis, auquel je n'avais absolument pas pensé, ils m'ont cité Werber. Et alors, ça, effectivement, Werber, deux fois plus de mains qui se lèvent.
Les scientifiques le lisent.
Et les scientifiques le lisent. Et alors, moi, ça me tombe des mains personnellement. Mais donc, pour moi, je ne l'identifie pas complètement comme science-fiction, parce qu'il fait plutôt une espèce de thriller scientifique, souvent avec une thématique empruntée à la science-fiction. Je ne sais pas si vous le classez, vous, dans la...
Oh ouais.
Vous le mettez dans la science-fiction française.
Ouais. Bah oui.
Moi, je n'y pense pas.
Moi.
Mais moi, je pense que c'est un genre qui est régulièrement un peu écarté de la science-fiction littéraire, mais peut-être pour des raisons qui ne sont pas vraiment internes.
Mais parce qu'il n'est pas vraiment aussi... Non, il n'est pas identifié comme faisant partie du genre. Werber, il ne va pas aller dans les festivals de SF, dans les festivals...
Oui, c'est ça. C'est-à-dire pour des raisons... C'est ça que j'appelle pour des raisons pas vraiment internes. En fait, quand on regarde les textes, franchement, c'est de la science-fiction, mais c'est comme Tom Clancy. C'est comme ces gros best-sellers de fiction. Alors on va dire fiction scientifique pour pas dire science-fiction, mais en vérité il y a les mêmes ingrédients. Sauf que c'est pas reconnu comme le même genre. Mais c'est peut-être l'occasion de dire qu'un genre c'est pas que des éléments internes au texte. Hein. C'est aussi une reconnaissance sociologique, économique. C'est aussi une reconnaissance par les stars, j'ai envie de dire, certaines stars, certaines hiérarchies culturelles. Et c'est très, je prends ça très au sérieux. Hein. Dire ça, ça ne veut pas du tout dire que ce sont des critères qui ne m'intéressent pas, au contraire. Mais travailler le littéraire dans ces critères, c'est multiplier les difficultés, finalement, mais les motivations aussi. Pour moi, Werber, c'est... Alors, j'aime pas tout dans Werber, mais je relis et je remets régulièrement dans des programmes de cours qui ne sont pas forcément sur la science-fiction... Les fourmis, c'est un super livre. Le dernier cours dans lequel j'ai réussi à le caser, c'est un cours sur les rapports entre littérature et encyclopédie. On s'en souvient peut-être pas forcément quand on a lu Les fourmis. On se rappelle qu'il y a les deux points de vue, hein, celui des humains et celui des fourmis. Mais les notices intercalaires de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, qui sont des espèces de variations sur l'écriture d'encyclopédie. Alors, il y en a certaines qui sont typiquement de la médiation scientifique, qui vous expliquent des choses d'entomologie, tout
les
à fait.
Ouais,
les phéromones et tout ça. Puis il y en a d'autres, c'est des délires mystiques sur en ce moment, il y a un monde qui est en train de naître et de mourir dans le petit grain de poussière qui est là. C'est du Werber, quoi. Alors, bon, dans sa deuxième partie de carrière, moi je trouve qu'il a un peu trop été vers la deuxième.
Bon, on va pas quitter complètement l'axe qu'on nous demande de suivre un petit peu. Alors justement, on l'a un petit peu abordé déjà. On parlait d'université, on parlait d'enseignants, on parlait d'étudiants. Comment est-ce qu'on peut légitimer la science-fiction à l'université? Et surtout, puisque on a un peu commencé à en parler, la science-fiction française, parce que finalement, enseigner la science-fiction à l'université, ça veut dire se poser des questions de style, se poser des questions de la belle écriture, se poser des questions de la grande littérature, de la littérature populaire. Donc, est-ce qu'il y a une place pour... Je pense que ce qu'on connaît surtout, c'est la science-fiction anglo-saxonne. Et donc, est-ce qu'on peut développer effectivement une grande place à la science-fiction française?
Alors, je ne peux parler que de manière très spéculative, puisque je ne suis pas, encore une fois, en position de véritablement programmer l'enseignement de la science-fiction, qu'elle soit française ou autre. Ce qui me semble important de noter, c'est que dans la logique institutionnelle qui est la nôtre, si on veut pouvoir faire étudier, si on veut à l'intérieur d'enseignement de littérature française inscrire la science-fiction, il faut que ce soit la science-fiction d'expression française.
Ben oui. Hein,
on peut pas mettre au programme d'une étude littéraire française Asimov.
J'ai fait de la littérature comparée, c'est pour ça que j'ai
voilà.
Le droit.
Mais tu es obligé de mettre un texte français dedans.
Alors,
t'es obligé de mettre du français, t'es comparé.
Oui.
Ouais. Oui. Enfin, voilà. Mais et donc il y a des
si
voilà. Il y a quand même une négociation en termes de domaine qui est nécessaire. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ma thèse plutôt sur la science-fiction française, en refusant tout à fait toute perspective comparatiste. Non pas que je refuse cette perspective en soi, mais parce que c'est un problème institutionnel qui est que dès lors que y a une once de comparatisme, bah, de toute façon, d'une certaine façon, ça ne va plus se diriger vers les études de littérature française. Donc, ce que j'aurais tendance à poser la question en l'inversant, c'est-à-dire que il me semble nécessaire qu'il puisse y avoir une place pour l'étude de la littérature d'expression française dans les cours de littérature française. Mais le problème étant que si on le pose en termes de légitimation, et on ne pourra pas, enfin, c'est un peu la poule et l'œuf, on ne pourra pas poser le problème de façon efficace parce que il faudra qu'il y ait forcément, à un moment donné, un geste instituant venant d'un centre d'enseignants qui vont établir à leur cours telle et telle chose. Mais ça va se faire dans un cadre institutionnel qui est celui que, il y a un moment, il faut construire la cohérence d'un parcours littéraire. Or, et c'est le cercle vicieux s'enclenche. Or, il faut se rendre compte que justement, ce qu'on vient chercher en principe à l'université, c'est en littérature française, c'est un accès à un patrimoine. Ça fait partie des choses qu'on vient chercher. En principe, on vous donne accès à une culture commune. Et donc, dès lors que la science-fiction ne fait pas partie de cette culture commune initialement, ben voilà, il faut enclencher les choses. Donc, ce problème-là reste un problème persistant. Je ne peux pas participer complètement à le résoudre pour l'instant, faute d'être en position véritablement agissante. Et donc je vais laisser plutôt les personnes plus prescriptrices parler de cette question-là.
Est-ce qu'on fait des cours de stylistique est-ce qu'on peut parler de l'écriture?
Oui, Irène, elle fait ça.
Ouais, alors, oui, c'est pour ça que je regarde.
Oui, mais alors, on a publié, il est en ligne, c'est une revue en libre accès, on tient beaucoup à cet accès ouvert. Res Futurae, donc vraiment je vous invite, si cette question du style vous intéresse, je vous invite à lire l'article d'Emmanuel Boisset dans le numéro 2. Parce que étudier le style de la science-fiction, oui, bien sûr, mais tout à l'heure je vous disais, moi ce qui me motive c'est de faire étudier la littérature de science-fiction, son texte, et j'ai dit, comme on le fait avec un poème de Dubélet ou une belle page de Hugo, mais en fait en disant ça j'ai déjà dit un petit peu une bêtise, il s'agit de l'étudier en prêtant justement attention à un style qui s'étudie pas comme ça. Le style de la science-fiction, et ce sont les écrivains eux-mêmes qui le disent, c'est une littérature plutôt d'idées, et le style, en fait, ça vient un petit peu après. C'est d'abord les idées, la science-fiction, c'est d'abord une littérature de la spéculation, de la conjecture, etc. Bon, en vérité, si, il y a des stylistes chez les écrivains de science-fiction, et puis... C'est pas parce qu'il n'y a pas de belles pages ou de beaux styles, comme tu as dit, qu'il n'y a pas de style du tout. Simplement, il y a un style qui est peut-être à étudier avec une autre porte d'entrée, peut-être celle de l'effet, peut-être celle de l'immersion, peut-être celle de la connivence, peut-être celle de ce que Simon a dit tout à l'heure, un mot qu'il a dit, nous, ce qu'on appelle couramment. Dans notre jargon, on appelle ça le mégatexte ou le macrotexte, c'est-à-dire une espèce d'ensemble où il n'y a pas un style d'auteur, mais il y a un style de genre. Là, pour le coup, on étudie une littérature de genre. Et ça implique un certain nombre d'outils littéraires précis, de mesures, de syntaxe, de phrases, de formes littéraires, mais... Et j'en parlais tout à l'heure avec ces espèces d'insertions d'encyclopédie imaginaire dans le livre de Bernard Werber, mais on trouve ce type d'encyclopédie imaginaire dans le cycle de Fondation, dans Dune de Frank Herbert, dans un très très beau livre que on cite pas assez souvent, qui est le livre des ombres de Serge Lehmann, qui a un énorme livre, mais qui est absolument somptueux. Bref, il y a des formes. Vers lesquels diriger le regard, c'est pas la peine de chercher des alexandrins, des schémas de rime, ou même des figures de style dans la science-fiction. Il y en a pas vraiment. Ou alors quand il y en a, c'est pas là que se trouve l'effet science-fiction comme l'avaient surnommé les frères Bogdanov jadis. C'est ça que dont traite l'article que je vous invite vraiment à aller lire si la question du style vous intéresse. Mais oui et mille fois oui, il y a quelque chose à faire avec le texte de science-fiction. Et c'est très très motivant. Promis.
Si vous voulez dire,
non. Oui, effectivement, c'est dépasser la thématique,
hein, oui,
qui est une porte d'entrée facile dans la science-fiction, la thématique ou l'histoire littéraire, croisée avec l'histoire des idées, avec une histoire culturelle et une histoire scientifique. Bon, c'est pas inintéressant du tout de le faire comme ça, mais voilà, c'est vrai que étant des littéraires, et puis comme le dit bien Irène, en prêtant attention à ne pas réinstaurer des hiérarchies qui seraient soit celles de nos goûts, soit celles d'un héritage qui nous dirait Damasio c'est plus travaillé, Asimov c'est très blanc, hein, c'est très non écrit en apparence, c'est très plat. Sauf que ça s'avère tout à fait effectivement intéressant comme effet de présentation d'un monde, comment il réussit à l'introduire comme ça dans ces quelques pages qui n'ont l'air de rien, avec les deux trois situations et les quelques mots de Xéno encyclopédie qu'il dispose. Oui, étudier le style de la science-fiction, mais comme celui d'un genre, avant d'être celui d'un auteur, ensuite on peut effectivement les détailler des stylistiques personnelles.
Oui, c'est ça. Ça aurait aussi peu de sens d'aller chercher du grand style dans la science-fiction que d'aller chercher de la musicalité chez Rob Grier. Ou de l'écriture blanche chez Victor Hugo. Il y a des approches qui sont pertinentes ou pas. Ce qui est un peu regrettable, c'est que la science-fiction en tant que réserve de vraies questions littéraires, de questions qui peuvent intéresser un spécialiste de Balzac ou de Christine de Pizan, n'est pas encore... C'est là qu'on a encore du travail, qu'on a encore du pain sur la planche. Là, pour le coup, la science-fiction n'est pas encore un objet légitimé chez les littéraires. Les littéraires qui font métier d'enseigner et d'étudier la littérature tolèrent qu'il y ait des spécialistes de science-fiction. D'ailleurs, ils nous envoient tous les étudiants qui leur demandent d'étudier Damasio ou Serge Lehmann ou la collection Présence du futur, parce qu'ils se disent allez voir les gens qui s'y connaissent. Ça fait pas encore partie des choses je vais essayer de prendre l'exemple d'un étudiant pur littéraire tel qu'on sait les faire en France, un Cagneux. Voilà, un Cagneux au lycée Henri IV à Paris qui veut intégrer l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, il va pas se sentir obligé de lire au moins un livre de science-fiction dans sa vie. Pourtant, alors moi je défends vraiment l'idée, avec Richard Singelais, avec Simon Bréhand, avec Anne Besson, qu'il y a dans la science-fiction quelque chose qui se passe nulle part ailleurs. Dans aucune autre littérature, et qui enseigne quelque chose de précis, d'important et de puissant sur ce qui se passe dans toute littérature réaliste. On a l'impression de lire la description d'un truc qui n'existe pas avant qu'on en ait lu cette description. C'est cet effet de création de monde. Bon, la spécialiste ici, c'est plutôt Anne pour cet aspect de création de monde. Mais moi, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est les procédures vraiment très concrètes. Ça marche comment? Avec quel genre de phrase? Bon, je vous spoil le truc, c'est avec des appositions, hein, surtout. C'est avec des appositions, c'est l'outil universel de l'écriture de science-fiction, c'est l'apposition dans toutes les langues indo-européennes. Mais une fois qu'on a dit ça, on a beaucoup de travail.
Mais le problème qui se pose à partir de là, c'est que les mécanismes d'adhésion et d'immersion qu'on peut identifier dans la science-fiction, toutes les particularités qui ont été évoquées, tout cela, ça fait, à ce stade, difficilement retour vers une étude de d'autres textes. C'est-à-dire que pour l'instant, l'insularité dont je parlais tout à l'heure de la science-fiction, qui va du coup fonctionner à la fois parce qu'il y a cet effet centripète du méga-texte, qui est un ensemble de références qui ne va fonctionner que pour la science-fiction, quasiment, le fait qu'effectivement la grammaire, la syntaxe même des textes, tout en étant des textes tout à fait simples la plupart du temps dans leur écriture, même s'il y a des essais intéressants, tout ce qui construit ce texte de manière quasiment parallèle, externe, au fonctionnement, disons, le plus courant de la littérature, va faire que, la plupart des personnes qui sont pourtant des spécialistes de littérature se trouvent en partie démunis face à ces textes-là, non pas qu'ils soient en soi incapables de les comprendre, mais ils n'en reconnaissent pas les qualités ou la beauté particulière, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas les faire communiquer aussi facilement que... Enfin, ils pourraient le faire, évidemment, bien sûr, je pense qu'on peut le faire, mais ça n'est pas si évident de les faire fonctionner, et ils y voient soit superficiellement des textes qui effectivement fonctionnent avec une écriture très neutre, très blanche, très, très factuelle et qui simplement vont agiter quelques idées, voilà. Soit ils y voient au contraire une sorte de complication byzantine avec une surcharge en termes de vocabulaire qui n'est que de la poudre aux yeux en quelque sorte, et avec toujours ce soupçon de ce que Michel Butor avait appelé à l'époque en 1953, alors que la science-fiction commençait à se développer, toujours ce soupçon de la réplication. C'est-à-dire l'idée que la science-fiction n'est finalement qu'un nouvel habillage de quelque chose qui a déjà été commenté. Hein, on fait des westerns spatiaux, on va faire des enquêtes avec des robots. Voilà. Et ce qui est tout à fait une possibilité.
On a tous vu des séries, on se dit, bon oui, c'est un peu là, mais dans le futur. Par exemple, avec les outils du futur, enfin bon, c'est une variation.
Ouais. The Expanse.
Non. Ah, ils sont pas d'accord.
Ou Altered Carbon.
Ouais. Oui. Bon.
Donc, alors, on va entrer dans le dur, puisque c'était le titre, c'est quand même science et fiction. Et là, effectivement, une grande question se pose. Nous sommes tous des gens de SHS. Comment est-ce qu'on articule justement science et fiction, SHS et science? Comment enseigner, puisque on l'a dit, finalement, on va travailler à la science-fiction essentiellement en littérature et pour des étudiants de littérature, qu'est-ce qu'on fait de toute la partie science? Finalement, comment on la transmet? Est-ce qu'elle intéresse? Alors, effectivement, vous disiez, bah, finalement, des gens ou des étudiants qui font autre chose, qui sont des scientifiques, c'est vrai que dans les écoles d'ingénieurs, on lit de la SF, hein, mais chez les nôtres, comment on articule les deux finalement, science et fiction? Comment on les attire? Et puis, sur quoi est-ce qu'on s'appuie? Est-ce qu'il faut tenir un discours spécifique sur la science dans la littérature de science-fiction?
Quelquefois, il ne faut pas trop se compliquer la vie. Hein. Oui, bien sûr qu'il faut parler de science quand on parle de science-fiction. Bah, déjà, c'est quand même le seul nom de genre littéraire avec science dedans. Ça vaut la peine d'y consacrer un petit moment. Et puis, même si il se trouve toujours au moins une personne dans une salle, peut-être dans celle-ci ce soir, à dire oui, mais il n'y a pas que la science-fiction purement scientifique, il y a aussi la science-fiction des pouvoirs ou bien la science-fiction poétique, ou bien la science-fiction ironique. Moi, j'ai l'impression que oui, il faut forcément en parler. Bon. Savoir expliquer des choses très concrètes de mécanique quantique, par exemple, pour comprendre le roman de Greg Egan, La Cité des Pères Mutants, qui n'est probablement vraiment... comment dire, que seuls les gens qui sont à l'aise avec la physique quantique peuvent vraiment comprendre. Bah non, moi je peux pas. D'ailleurs, j'ai probablement pas saisi ce livre et tout le sel de ce livre comme un scientifique le ferait. Mais faire un peu de médiation de culture scientifique, dire quelques petites choses très simples et qu'un physicien il va lever les yeux au ciel en disant ma mamie, que c'est réducteur, mais c'est mieux que rien. Dire qu'avec les quantum, on est entré dans une nouvelle ère de la physique, des choses comme ça. Et puis, moi, j'ai l'impression quand même que le principal, c'est de faire un peu de médiation scientifique et revenir à l'idée que nous, ce qu'on est là pour faire et ce qu'on sait faire, c'est précisément ce que les scientifiques savent pas faire. Et on en a un exemple chaque année dans un séminaire vraiment interdisciplinaire qui se passe dans un petit village de l'arrière-pays niçois qui s'appelle Péresque, où il y a des physiciens, des biologistes, quelques littéraires, des sociologues, quelques littéraires en nombre la plupart du temps minoritaires, et des spécialistes de cinéma, des doctorants, et où il est chaque année loisible de constater que, oui, la syntaxe d'un récit, par quoi ça commence, par quoi ça continue, comment on acquiert les informations, tout ça, c'est pas si simple. Et que On peut tout connaître à la théorie de la relativité, décortiquer tout simplement un schéma narratif, c'est pas si évident. Donc oui, parler de culture scientifique et rappeler, après cette opération de médiation, que ce que nous on sait faire, c'est de savoir dans quel ordre ça se raconte et en quoi la forme du récit compte aussi.
Donc on essaye quand même, parce qu'il y a des moments, enfin je sais pas, dans certains livres de Frank Herbert, Dosady et compagnie, il y a des moments où on se dit, je comprends pas tout. Mmh. Et là, on essaye de déployer quand même pour un public, on peut essayer de déployer le discours scientifique qui est derrière, ou alors est-ce qu'on peut se dire, oui, bon,
c'est... Alors moi, je suis complètement du côté Louis Barrow, hein, mais
du côté
je suis une lectrice de science-fiction et de fantasy, donc je lis la science-fiction comme je lirais de la fantasy. Donc pour moi, c'est de l'ordre de la magie complète. J'ai vraiment pas de capacité à saisir la culture scientifique, et donc je n'essaye même pas, je me laisse porter effectivement par la manière dont ça m'est raconté, qui me permet de m'imaginer des choses. Mais alors moi vraiment je ne me sens absolument pas du tout compétente pour traiter la partie science de la science-fiction. J'avoue ne m'accrocher qu'à la partie fiction, mais donc quand j'ai voulu monter le MOOC sur la science-fiction avec on a des choses à traiter, voilà les objets qui sont incontournables dans ce cours. Il y avait la partie science, j'ai fait appel à Roland Lehoucq, physicien et vulgarisateur scientifique, qui donc profite de la science-fiction pour parler du voyage dans le temps, de l'énergie nécessaire pour déplacer un objet d'un endroit à un autre, de à quoi pourrait ressembler une exoplanète, à quoi pourrait ressembler un alien, des questions que moi je ne peux me poser. Je ne me les pose pas, mais quand on m'en parle, je me dis, bah oui, je sais comment c'est, parce que moi, je lis de la science-fiction.
C'est dans le livre. Mais évidemment, elle est dans les livres. Si on fait une explication de texte sérieuse d'un livre de science-fiction, on l'a. Cette culture scientifique, elle est dedans. Un bon livre de science-fiction ne laisse pas son lecteur sans précisément ce que notre ami Richard Singelais, qui est professeur à l'Université Laval à Québec, appelle des segments didactiques. Autrement dit, des mises posées en bloc comme ça dans une page. En général, on trouve que le roman n'est pas très bon, qu'il se débrouille pas très bien pour nous apprendre ce qu'il faut qu'on sache pour comprendre ce qui se passe. Non, un bon livre de science-fiction, c'est un livre qui va savoir distiller ça de façon plus subtile, plus habile, et surtout, à mon sens, plus tressé avec l'histoire. C'est-à-dire qu'on peut pas comprendre l'histoire sans comprendre l'astuce qui est en général une grande loi scientifique, physique souvent, parce que mine de rien, enfin, je ne sais pas si vous me direz, si vous avez le même sentiment, mais la science dominante de la science-fiction, c'est la science physique. Hein, c'est, oui. Bon, disons de la science-fiction classique.
Ça, oui, tu seras d'accord. Si tu veux, mais je ne suis pas certain qu'attribuer à tout prix à un domaine, c'est pas. Enfin, ce que je veux dire, plus exactement, il y a quand même des. Enfin bon, on ne va pas parler de. Domaines scientifiques, mais moi je penserais dans les dominants, il y a la question de l'informatique. Et il y a une articulation dans la physique quantique de la question de l'information et la question de la physique, donc il y a aussi des recoupements qui interviennent. Et altered carbone était mentionné tout à l'heure, carbone altéré, carbone modifié, par exemple. Et là, clairement, c'est tout en étant un récit, au départ, c'est un roman ou une série de romans de Richard Morgan. Clairement, l'enjeu scientifique, pour autant qu'il se déploie, dans ce roman-là, c'est un enjeu qui est lié à la question du clonage, à la question du transfert de conscience, à la question, et en fait, à toutes sortes ça croise énormément de choses qui, si on demandait à Éric Pichol, se ramène à la physique, c'est vrai. Mais parce que la physique explique tout et englobe tout dans cette perspective. Mais par rapport à ça, j'aurais tendance tout de même à ajouter. Pour compléter sur la question de ce que peut faire Roland Lehoucq et de ce que ça peut signifier cette articulation-là. Une des choses qui est faite remarquablement par Roland Lehoucq, c'est que il n'instrumentalise pas la science-fiction, il en fait l'occasion dans son déploiement comme tel, dans le respect de ce que fait la science-fiction, il en fait l'occasion d'une rencontre avec un questionnement qui va être un questionnement scientifique. Et donc, il montre comment on peut s'appuyer sur la science-fiction pour véritablement s'interroger sur ce que c'est que la matière, sur ce que c'est que l'énergie, bon voilà, je ne vais pas faire sa place, j'en suis incapable. Mais ce qui me semble, ce que ça montre du fonctionnement de la science-fiction, et ce sur quoi, dans la mesure du possible, une des directions que j'essaye d'explorer, quand j'en parle en cours, c'est la question des représentations. C'est-à-dire qu'il s'agit moins de s'interroger sur ce que la science-fiction nous apprend de la science que ce qu'elle nous dit de ce qu'on perçoit de la science. C'est-à-dire que c'est une façon de repérer ce que, à un moment donné, un auteur, dans un contexte donné, va pouvoir capter de la science. Ça croise un petit peu ce que Gérard Klein a développé, qu'on a étudié assez longuement à Péresque notamment, qui est la question des subjectivités collectives, c'est-à-dire l'idée que l'écrivain de science-fiction va capter à un moment donné un certain état de la science et du rapport à la science, et qu'il va l'inscrire d'une manière ou d'une autre, sans forcément être conscient d'ailleurs, hein. D'ailleurs, en général, d'après Gérard Klein, sans en être conscient, dans ses ouvrages. Et donc, ce qui me semble qu'on peut repérer dans la science-fiction, et pour cela pas besoin d'être un spécialiste scientifique, c'est une certaine représentation de la science, une certaine manière de l'envisager, y compris dans ses variantes les plus fantaisistes, ou du moins les plus extravagantes, les plus magiques, finalement, comme dans les versions les plus hard, les plus durs, les plus liés aux sciences physiques. Et à cet égard, une des choses qui a plutôt bien fonctionné cette année, alors justement dans un cursus spécifique qui est lettres informatiques, dans lequel j'ai pu donc parler de science-fiction assez librement, c'est que justement j'étais confronté à des gens qui avaient un double niveau de savoir, qui étaient un petit peu en fait ces scientifiques lecteurs, puisque c'est plutôt des gens qui ont un cursus scientifique, et qui du coup pouvaient identifier la manière dont un écrivain pouvait injecter des questionnements scientifiques dans finalement une réflexion sur ce que c'est que d'envisager une société du futur. Bon. Donc voilà, ce qui est quelque chose qui est malheureusement souvent absent de la littérature au sens large, il ne s'agit pas d'ailleurs de la stigmatiser, de la blâmer à contre-courant, mais qui est très peu inscrit dans le questionnement littéraire.
Et ça permet de faire le lien, effectivement, de justifier le regard, l'importance du regard des SHS sur ce type de texte, hein, des littéraires, puisqu'on va être à même d'analyser un discours sur la science, en dehors de ce qu'on peut dire effectivement du vrai discours scientifique, mais c'est aussi une façon de parler d'eux, et là, pour le coup, on est tout à fait légitime. Parce que pour le reste, bon, c'est vrai, moi je suis un peu comme quand je lis des choses, quelquefois je ne comprends pas, je me dis bon, on est dans le quantique, très bien, c'est un peu magique. Mais
c'est la réalité de la représentation de la physique quantique dans la culture scientifique ordinaire. Donc d'une certaine façon, on n'est pas du tout.
De toute façon, oui. Tu ne peux pas comprendre.
Oui, c'est ça. Mais j'avais envie de. En fait, moi j'aurais tendance à me demander aussi. À haute voix là devant vous, est-ce que c'est si spécifique que ça ? Je veux dire, quand vous lisez Anna Karénine, vous commencez pas par aller suivre un cours sur l'histoire de la Russie. Vous lisez Anna Karénine, et le roman historique, s'il est bien fait, il sait vous donner quand il faut les éléments qui construisent une espèce de nuage intellectuel, nuage mental ou cognitif qui suffit à se représenter une culture étrangère et un temps qui n'est pas le nôtre où l'histoire se passe. Mais moi, j'ai l'impression que on gagnerait beaucoup, je crois, à étudier la science-fiction comme ça. En tout cas, c'est ce que je propose en ce qui me concerne à mes étudiants, c'est-à-dire de la lire comme une littérature comme les autres, c'est-à-dire dont le lecteur est alimenté régulièrement en tout ce qu'il a besoin de savoir pour continuer à suivre l'histoire. Parce que, en gros, c'est l'histoire qui compte. Dans science-fiction, c'est fiction, hein, le mot important. C'est donc pour suivre l'histoire, il a tous les renseignements qu'il faut. Et quand c'est pas vraiment clair, on en parlait récemment avec Anne, on comparait nos impressions sur un roman qui, au début, produit toutes sortes d'explications qui, en fait, n'en sont pas.
Incompréhensible.
Ça se passe dans un cube.
Le voleur quantique, c'est ça.
Le voleur quantique, voilà. Et moi, j'ai l'impression que, mais c'est exprès. C'est exprès, c'est pas grave. Peut-être bien que la littérature science-fiction, c'est aussi une littérature de la confiance interprétative. Vous entrez dans un roman de science-fiction, il me semble, hein, en passant une sorte de contrat avec l'auteur, d'accord, je veux bien ne pas tout comprendre, mais quand même, je veux qu'il y ait une histoire. Déjà, je veux comprendre ce qui se passe. Et à la fin, tu m'en donneras de temps en temps suffisamment pour que j'ai compris des choses que je ne comprenais pas au début. Et donc, la science de la science-fiction, bah, c'est précisément celle-là. Ce n'est pas la science du cours de physique. C'est la science telle que la narration de la science-fiction la met dans une histoire.
Et que la narration tout court, effectivement, oui. On peut la mettre dans une histoire, avec la seule différence avec le roman historique, c'est que science et fiction sont conçues comme deux choses plus hétérogènes que histoire et littérature.
C'est vrai. Nos représentations ont tendance à écarter ces deux choses-là. Ouais. À tort, oui.
Et donc le mot science-fiction en lui-même fait paradoxe,
fait étrangeté,
il travaille cette distance entre les deux domaines de représentation.
Ouais. Ouais. Voilà, puisqu'on parle de ça,
peut-être à tort, mais
autre grande question de la science-fiction. Enfin, moi, quand j'ai commencé à en lire adolescente, j'ai cherché des réponses politiques, l'avenir, enfin, etc., les sociétés, les dystopies, enfin, les choses comme ça. Alors, est-ce que là aussi, quand on aborde la science-fiction à l'université, quelle place on laisse à la philosophie, à la politique? Est-ce qu'il faut entraîner les étudiants dans ce genre de choses? Ou pas? Est-ce que là aussi on a parlé de fiction? Comment on gère cet aspect-là, ces questions?
Alors pour le coup, en général, ça les intéresse beaucoup plus, les nôtres. Hein. Les étudiants de lettres sont plus politisés que passionnés par les questions de physique. Et donc c'est en tout cas spontanément davantage des questions qui font briller leurs yeux. Donc voilà, on a plus de facilité à... Il faut les aborder. Maintenant, là encore, on n'est pas en sciences politiques ou en sociologie, on n'est pas dans une AG. Et donc, voilà, susciter le débat, non. Mais faire prendre conscience encore de représentations collectives qu'on peut se faire quant à des visions de l'avenir, de la manière dont elles sont placées en contexte, dont elles sont contextuelles, c'est-à-dire qu'on ne se représentait pas l'avenir de la même façon chez Asimov dans 1950 et en 2018 dans une dystopie. On est aujourd'hui entouré de dystopies, d'un discours très pessimiste généralisé sur l'avenir proche, hein. Les anticipations sont noires, noires, noires.
On a dit les robots, ça peut toujours marcher, hein. Ça, Asimov n'est pas si daté.
Alors, la question des dates est intéressante, hein. Irène a fait un article là-dessus, et dans Asimov, Asimov commence son histoire du futur, son histoire des robots dans les années 90, donc si on s'est raté, c'est déjà trop tard. Pour le début en tout cas, mais effectivement ce qu'il Robbie, robot domestique qui est la première nouvelle des robots d'Asimov, qui est un robot babysitter qui est absolument patient, d'une loyauté absolue, enfin voilà, qui est la babysitter de rêve, mais qui fait peur aux parents, est effectivement ressemble à un certain nombre de robots humaniformes qui ont été présentés dans des séries récentes.
En fait, cette question, elle a été beaucoup posée en 1984, évidemment, puisque en 1984, le roman d'Orwell, en principe, arrivait à péremption. Hein, et puis après, c'était l'occasion, peut-être, de vérifier si c'est trompé, si c'était pas trompé.
Et 2001.
Et puis il y a eu 2001, et puis il y a plein de dates comme ça, et puis il y a eu 2017, parce qu'en 2017, c'est, je crois, la date de naissance de l'un des androïdes de Blade Runner, enfin bref. En fait, en 1984, la plupart des articles critiques, enfin la littérature critique qui est parue à ce moment-là, a plutôt conclu à... une certaine vanité de l'exercice, puisque alors même que ça restait, bon, c'était désormais possible de dire, bon, est-ce que ça s'est réalisé, est-ce que ça ne l'était pas, lire 1984 en 1950 ou en 1984 ou en 1990 produit le même effet de projection vers l'avenir. Et donc c'est bien le signe que il se passe quelque chose qui tient pas qu'à la date. Il se passe quelque chose qui tient à, bon, je vais le redire encore une fois, la manière dont c'est raconté, tout ça. Et ça a été particulièrement rediscuté au moment de l'affaire Snowden. Vous vous souvenez sans doute de ce lanceur d'alerte. Les ventes de 1984 ont bondi de plus de 500%.
Les fake news aussi, pareil.
Oui, oui, oui. Et c'est désormais traçable en continu grâce à des plateformes de librairies en ligne qui se font un plaisir de vous annoncer combien elles en ont vendu de plus grâce à la dernière affaire. Mais c'est bien le signe que, il me semble, on va chercher dans la littérature non pas une vérification, une prédiction... Mais plutôt, une manière de projeter la réflexion. Et cette manière de projeter la réflexion, elle fonctionne que la date inscrite soit 2001, alors que 2001, c'est déjà il y a 18 ans. Ça fonctionne toujours de la même façon. Ray Bradbury, pour l'édition du quarantenaire de ses chroniques martiennes, l'an 2000 était passé. Or, dans la première édition des Chroniques martiennes, je vous ai dit, c'est le livre par lequel moi je me suis mise à aimer de la science-fiction, ça s'arrêtait en 1999. Donc là, il y avait plein d'effets. Il s'est senti obligé, ou alors c'est son éditeur de Bolday qui l'a convaincu de le faire. Il a transformé toutes les dates. Il les a toutes décalées vers 2047. Moi je trouve que lire 1999 dans les nouvelles de la première édition, il n'a rien changé d'autre que les dates. Hein. Ça fonctionne en fait, c'est comme pour 1984.
Très souvent les auteurs s'en tirent en changeant de système de datation en suspendant la narration dans un temps qui n'est pas... pas situable, dont on ne connaît pas la date de début, ça va être l'Empire Galactique, AD, 450 AD, donc voilà, comme ça on a des systèmes de... mais alors peut-être que ça marche plus pour les dystopies que pour les avenirs
radieux.
Non,
parce qu'il y a beaucoup d'avenir radieux en science-fiction.
Il y en a tant que ça.
Tout l'avenir des années, des pulps des années 50, où on a quand même beaucoup cet imaginaire du futur, de la voiture volante et du parc d'attractions.
Pour prendre un exemple précis dans ce domaine-là, puisqu'en plus c'est celui autour duquel c'est construite beaucoup la notion d'histoire du futur. Robert Heinlein, il pose des dates dont certaines sont accessibles pour nous. Ça fonctionne exactement de la même façon. Alors il n'est pas, il n'idéalise pas. C'est pas un avenir radieux au sens le plus simple de la chose, mais tout de même il pose simplement une société qui avance et dont des problèmes se posent. Donc avec une histoire du futur une accession peu à peu à l'espace, ça fonctionne de la même façon. Hein. C'est pas plus problématique au sens où je crois qu'il y a quand même une portée métaphorique très forte dans la science-fiction qui pour le coup est activée assez simplement à la lecture, c'est-à-dire que et d'ailleurs c'était ce que soulignait Richard Saint-Gelais quand il disait justement une fois que la date est dépassée, finalement on lit simplement le récit comme s'il s'agissait d'une réalité alternative. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça, dès lors que le lecteur accepte de toute façon la prémisse qu'il va être confronté à des choses qui ne sont pas réalisées dans le monde réel, ce qui est pas tous les lecteurs ne seront pas prêts à franchir ce pas, mais dès lors que c'est accepté, le cadre exact importe, enfin le cadre spatio-temporel importe moins que la pertinence interne du récit et ce qu'on peut en retirer. Donc effectivement, exactement ce qui a été écrit tout à l'heure pour 1984, le questionnement sur la société de surveillance, il vaut quel que soit le... Voilà,
Alors, et ça, effectivement, la science-fiction est une des littératures qui permet de enfin, et peut-être la littérature qui permet le plus de poser, c'est-à-dire à une échelle large. Parce que, par exemple, le roman policier, lui, est très directement politique, mais très immédiatement politique. La science-fiction, du fait qu'elle s'attache à décrire des sociétés, des mondes futurs, elle va poser les questions politiques à une échelle plus large. Et c'est peut-être une de ses particularités et donc une des choses qui va le plus retenir son lectorat et être donc le plus intéressant en elle, cette capacité à traiter des évolutions sociopolitiques ou socio-économiques qui là encore ne sont pas des sujets littéraires évidents.
C'est la question, est-ce qu'on peut imaginer finalement d'étudier des textes de science-fiction en parallèle avec des textes, je sais pas moi, d'auteurs du XVIIIe siècle hein, qui ont pu réfléchir à la société, à l'évolution de la société. Est-ce qu'on pourrait imaginer ce type de confrontation ?
Bien sûr, on le fait, on le fait volontiers. Enfin, on le fait tout le temps. J'ai envie de dire, on le fait tout le temps, mais on fait pas tout le temps des cours de science-fiction. Donc, on le fait pas tout le temps, mais on le fait à chaque fois qu'on fait des cours de science-fiction sur des images, sur les savants fous, sur les hommes artificiels. Enfin, c'est difficile de parler, par exemple, des robots ou des androïdes ou des clones sans évoquer les golems, les automates, les poupées électriques. On en parle forcément un petit peu, non ?
J'ai moins d'expérience.
Les poupées électriques.
Bon, il nous reste.
Je voudrais juste réagir quand même à ce que tu viens de dire. C'est que, enfin, il me semble qu'il y a quand même un mouvement. Il est difficile de prendre du recul là-dessus pour l'instant parce qu'on est dans l'ultra contemporain, mais il me semble que ça fait 20-25 ans facilement qu'un ensemble d'auteurs, sans que ce soit, on s'agisse forcément de pastiche ou de science-fiction dissimulée, s'engagent, enfin, d'auteurs de littérature générale, s'engagent dans des chemins qui ne sont pas nécessairement, voilà, donc ceux de la science-fiction, qui ne sont pas donc des mais qui sont tout de même décalés, qui posent des questionnements. Je pense à des auteurs comme, on peut penser à quelqu'un comme Jean Echenoz qui joue un peu avec ça, depuis quelques temps. Évidemment, il y a un auteur un peu massif de ce point de vue-là qui est Michel Houellebecq, mais dont le positionnement est au départ celui de quelqu'un qui est féru de science-fiction. Hein. C'est un amateur de science-fiction. Il voulait faire avec la possibilité d'unir un grand roman de science-fiction. Je répondrai pas sur la question de, est-ce que c'est un grand roman de science-fiction, mais ce qui est sûr, c'est que ça a raté le Goncourt et que du coup, ça a un peu douché son envie de faire une convergence aussi massive de la science-fiction et la littérature générale. Mais de fait, dans le quartier Le Territoire, qui lui a le Goncourt, effectivement, dans son mission, Sérotonine, il y a un glissement qui se fait beaucoup plus, de façon plus progressive. Quelqu'un comme Yannick Enel, dans Les Renards Pâles, par exemple, va faire basculer aussi l'idée d'une insurrection.
En littérature américaine contemporaine,
c'est massif aussi. Je parlais pour la littérature française, que je connais un tout petit peu mieux, mais effectivement, littérature américaine, ça. Et donc, je crois qu'il y a aussi, sans qu'on retrouve forcément cette articulation science et fiction qui est dans la science-fiction, il y a tout de même un effet de dilution. Ce que je suis pas très sûr que ce soit le terme le plus adéquat, mais ce que je relie à la question du slipstream, c'était ce que les anglo-saxons appellent donc le slipstream, c'est-à-dire ce que en fait quelqu'un comme Francis Berthelot appelle les transfictions, dans un sens, c'est un mot un peu disputé, mais c'était l'idée de fictions qui vont glisser un petit peu d'un espace à un autre et qui vont pas justement être facilement classables.
Entre littérature générale, voilà, et littérature de l'imaginaire,
sans que ce soit parce que il y a eu un moment où on a pu de l'intérieur du domaine de la science-fiction, reprocher à des auteurs de littérature générale de tenter de faire la science-fiction sans rien y connaître et en faisant des choses qui finalement ont réinventé l'eau chaude. Bon, il y a eu ce soupçon-là, et inversement, qui était symétrique de vous ne faites rien qui vaille du point de vue du style, on l'a couvert tout à l'heure. Et Mais à cet égard, actuellement, il y a un effet, un décloisonnement peut-être plus fort qui se fait depuis 20-25 ans et qui, à mon avis, rend possible dans un questionnement littéraire, un questionnement qui permettrait de faire converger les deux. Bon, voilà. Okay.